lorsque l'on parle du ministère, et je vous propose de lire maintenant dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 12. Première aux Corinthiens, chapitre 12. Après cette lecture, je demanderai à Monsieur Jean Galarato de nous conduire dans la prière, mais après cette lecture. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Une belle formule de structure trinitaire qu'on peut comparer à celle de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3 que nous lisions l'autre jour, au chapitre 4 que nous lisions le premier jour. Le mot qui est traduit don, donc c'est le mot charisma, déjà commenté. Le mot traduit service, c'est le mot qu'on peut aussi bien rendre ministère, diaconia. J'estime personnellement que Paul parle chaque fois d'une réalité unique sous ses faces diverses. De même que l'Esprit, le Seigneur et Dieu sont un seul et même Dieu, que la Trinité est une dans la distinction de ces personnes et la distinction aussi des missions dévolues à l'Esprit et au Fils. De même, c'est une réalité unique qui est vue sous l'angle du charisme, du ministère et de l'opération, terme vague, qui montre que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit par le moyen des ministères pour lesquels les charismes mêmes sont distribués. La pensée de Paul est de toute façon, dans le contexte, comme vous vous en rendez compte, celle de l'unité dans la diversité ou de la diversité unifiée. C'est une pensée qui correspond bien au thème trinitaire et qui, ici, donc, s'exprime avec cette distinction d'aspect, de facette, charisme, ministère, opération. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre toutes sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, il est don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est là qu'il traite de l'amour, comme vous le savez, dans le chapitre 18. Nous prions maintenant ensemble. À propos de la bipolarité dont nous avons parlé dans la dernière séance, bipolarité apparente au moins, j'ai dit en conclusion ce qui me paraît ressortir avec le plus de probabilité du Nouveau Testament, à savoir que la perspective dominante est fonctionnelle, que c'est celle du corps avec ses divers besoins, que la perspective est celle de la distribution libre par l'Esprit de Dieu des dons voulus pour l'accomplissement des services, que telle est la note qu'on doit d'abord faire entendre, mais que parmi les fonctions qui correspondent toujours à des dons, à des charismes, il y en a certains qu'on peut considérer quand même à part, qui correspondent à des ministères que j'appelle officiels ou structurels. Je n'ai pas indiqué les bases les plus précises de cette conclusion à laquelle j'arrive. Il y a bien sûr les arguments de la thèse institutionnaliste que j'ai résumée, pour quand même leur faire quelques droits, leur reconnaître quelques droits, leur donner quelques poids. Mais il y a deux considérations très précises dont je n'ai pas parlé et qui me convainquent. Il y a le fait que quelques-uns des ministères sont traités différemment des autres dans les listes de l'apôtre Paul. D'une part, certains de ces ministères, c'est ceux que j'appellerais structurels et officiels, se trouvent présents dans toutes les listes, alors que les autres sont réservés pratiquement à celle de la première épître aux Corinthiens. Les ministères qui sont communs à Romains 12, Éphésiens 4 et la première aux Corinthiens sont ceux-mêmes que j'appelle structurels officiels. Et d'autre part, dans le chapitre que nous venons de lire, une distinction intéressante apparaît, c'est surtout dans la partie finale du chapitre. Paul dit, au verset 28 et suivant, « Dieu a établi dans l'Église d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, et ensuite des miracles, ensuite des charismes de guérison, des secours, des gouvernements, des sortes de langues. » Là, je traduis très littéralement. Double contraste. Il énumère avec le verbe « établir », qui a quand même un coefficient institutionnel, avec premièrement, deuxièmement, troisièmement, et puis ensuite, c'est un peu le fourre-tout. Et ensuite, ensuite, ensuite. Oui. Il me semble qu'il fait là une différence, quand même, qu'on doit relever. Et puis deuxièmement, les trois premiers termes sont des termes titres. Ce sont des termes qui désignent les personnes qui accomplissent les fonctions en cause, alors qu'après, nous n'avons pas des titres attribués à des personnes, mais des mots qui désignent les opérations qu'ils font, miracles. Il n'est pas dit, en quatrième lieu, des thaumaturges, vous voyez, des faiseurs de miracles. Il dit ensuite des miracles, des charismes de guérison, on dit des guérisseurs. Vous voyez la différence que fait l'apôtre ici dans sa manière de parler, elle doit être significative. C'est donc pour la respecter que je suggère que dans la diversité fonctionnelle des charismes qui est évoquée dans l'ensemble du chapitre, il est légitime, nécessaire de distinguer certains ministères que j'appelle structurels parce qu'ils me semblent correspondre à la charpente même de l'édifice qu'est l'Église. Ils ne sont pas surajoutés comme des ornements agréables, utiles bien sûr, mais vraiment c'est le bâti de l'Église qui est en cause. Donc ils sont structurels. Et je les appelle aussi officiels parce qu'ils semblent impliquer une reconnaissance que le titre suggère, que l'existence d'un titre suggère, et que d'autres passages, bien entendu, nous allons en reparler aujourd'hui, signalent également. Alors, je propose ce matin de concentrer notre regard sur ces ministères-là. Donc, il ne s'agit pas de tous les ministères surajoutés, ornementaux, qui sont évoqués dans le parler ensuite de l'apôtre. Nous n'allons guère en parler, mais ils existent. Je ne veux pas les sous-estimer non plus. Et je concentre le regard ce matin sur ces ministères, en en relevant 6, on pourrait, je pense, chercher encore d'autres termes, mais 6, duquel le commentaire me semble opportun. Trois pères, apôtres évangélistes, prophètes docteurs, anciens épiscopes et diacres. Alors parlons d'abord des deux titres d'apôtre et d'évangéliste. Le titre d'évangéliste n'est pas employé dans le chapitre que nous venons de lire, mais il se trouve dans Éphésiens 4. Nous l'avons lu le premier jour. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Donc c'est aussi un terme important dans la manière dont Paul présente les choses. Le titre d'apôtre revient très fréquemment, avec beaucoup d'honneur, je dis qu'il resplendit dans ce sens. Celui d'évangéliste, il est rarement employé, et avouons qu'il reste dans la pénombre. Il nous est difficile de savoir à coup sûr ce qu'il représente. Il est utile de souligner qu'il ne correspond sans doute pas exactement à notre usage du terme, qu'il ne faut pas imaginez ni un Billy Graham, ni un Schwacke, ou lorsqu'on dit évangéliste au sens du Nouveau Testament, mais une fois qu'on a écarté une image qui risque trop vite de surgir lorsque le mot est utilisé, par quoi la remplacer, ce n'est pas facile à dire. Mais je parle d'abord maintenant du titre d'apôtre. Le ministère de l'apôtre, c'est le ministère premier que Paul met au tout premier rang de la liste. Dieu a établi premièrement des apôtres. C'est sur le fondement des apôtres et prophètes que l'Église même est construite, d'après Éphésiens 2, un chapitre que nous n'avons pas lu mais que vous connaissez bien. Donc il convient de s'attarder au moins quelques instants sur ce que signifie ce titre. Et en fait, c'est une question qui est encore assez débattue parmi les spécialistes. Le mot vient du verbe envoyer, apostello, c'est le mot apostolos en grec qui vient du verbe apostello, c'est un verbe assez courant, mais il n'est pas sûr qu'il faille simplement se contenter de ce rapport au verbe pour donner son sens au terme. Il signifie sans doute quelque chose de plus précis, de plus particulier qu'envoyé. Il n'est pas n'importe quel envoyé. Des connotations juridiques sont probables. Le terme est parfois employé, rarement, non pas pour les apôtres avec majuscule ou les apôtres au sens du ministère que nous considérons maintenant, mais pour des simples délégués, mais délégués avec des pouvoirs, avec des responsabilités juridiques. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est question des délégués des églises chargés de porter la collecte en faveur des saints de Jérusalem, et c'est le mot apôtre. Ils sont les apôtres des églises, dans ce sens qu'ils ont été choisis, et probablement élus, pour remplir ces fonctions très officielles, impliquant responsabilité, impliquant une certaine autorité par rapport là aux finances et aux rapports entre les églises. Certains ont évoqué à ce propos une institution connue du judaïsme postérieur. Mais vous savez que pour le judaïsme du premier siècle, nous avons assez peu de documents d'époque. La plupart de nos connaissances viennent d'écrits qui ont été rédigés dans les siècles suivants. Bien sûr, il y a quelques textes, il y a le témoignage de Flavius Joseph qui est quand même du premier siècle, même si c'est quelques décennies plus tard. Il y a les textes de Philon, mais ce n'est pas le judaïsme palestinien qu'il représente. Pour beaucoup, en tout cas, des choses qui se disent sur le judaïsme au temps de Jésus, on doit recourir à des sources qui sont plus récentes, d'au moins un siècle, deux, trois, quatre parfois. Et cela introduit un élément d'incertitude. Est-on absolument sûr que la littérature juive du temps qui a suivi la destruction du temple, la destruction de la vie nationale, est-on sûr qu'elle est restée fidèle à la réalité historique du premier siècle? Est-ce qu'on n'a pas enjolivé, est-ce qu'on n'a pas projeté dans le passé des choses qui étaient caractéristiques de la vie du judaïsme dispersé parmi les nations? Il y a quand même un débat possible. Alors une institution caractéristique de ce judaïsme, en tout cas un peu plus tardif, c'était l'institution du chaliar. Le chaliar, c'est le mandataire, celui qui a procuration pour agir au nom et à la place de la personne. Mandataire, légat peut-être, légat plénipotentiaire. Le chaliar, dans le judaïsme, correspond à une institution, principalement juridique, et le principe en est formulé, le chaliar a la même autorité que celui qui l'a envoyé. Celui qui reçoit le chaliar reçoit celui qui l'a envoyé. Celui qui rejette le chaliar rejette celui qui l'a envoyé. C'est le principe même de la représentation pleine et entière, au sens juridique. La parole que je viens de formuler ressemble beaucoup à la parole de Jésus, disant à ceux qu'il envoie, à ses apôtres, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Il y a, semble-t-il là, déjà une similitude assez frappante. Et malgré les contestations de certains, parce que c'est un sujet qui reste débattu, j'ai été assez convaincu par les lectures supplémentaires que j'ai faites pour me préparer, que le rapprochement avec l'institution du chaliar est éclairant quant à l'office apostolique, quant à ce ministère. L'apôtre, c'est sans doute d'abord celui qui représente le Christ et qui est muni des pleins pouvoirs pour le faire. Ou, si on préfère, un terme qui nous sera plus familier, l'ambassadeur. L'ambassadeur du Christ. Paul emploie un autre terme en 2 Corinthiens 5, dans la formule qui est traduite, nous faisons fonction d'ambassadeur pour le Christ, le terme donc employé par les Grecs pour les ambassades. Je pense qu'on peut dire que le sens de l'office apostolique n'est pas éloigné, que l'apôtre, ce n'est pas d'abord celui qui se déplace, qui part vers un autre lieu, envoyé dans ce sens géographique. Et dans ce sens, les spécialistes qui contestent la traduction missionnaire ont sans doute quand même un point fort. C'est vrai que si nous disons missionnaire avec la pensée qu'il s'agit d'aller dans un pays étranger d'abord, c'est probablement pas tout à fait le sens de l'apostolat. L'apôtre, c'est celui qui, certes, est envoyé, mais envoyé pour accomplir une tâche, pour porter un message, avec le pouvoir de représenter celui qui l'a envoyé. Et que ce soit dans un même lieu ou dans un autre lieu, importe relativement peu. Ça peut nous expliquer aussi d'ailleurs pourquoi les apôtres dans le livre des Actes ne semblent pas très pressés de voyager dans les premières années. Il faudra que la persécution les disperse. Et si Paul, lui, bien sûr, nous est connu comme un infatigable voyageur, parce qu'il a été, lui, choisi par Dieu comme apôtre des nations, il ne semble pas que les autres se soient si énormément déplacés. Même si Thomas est allé dans l'Est et jusqu'en Inde, selon les traditions, ce n'est pas le caractère itinérant qui est le plus caractéristique du ministère apostolique. C'est plutôt le fait d'être porteur d'un message avec un revêtement d'autorité et de représentation. Et en tant que les apôtres sont donc les ambassadeurs de Jésus-Christ, ils lui sont associés comme fondation de l'Église, d'après ce passage très impressionnant d'Éphésiens 2. Ils constituent le fondement sur lequel l'Église se construit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Là, je mets juste une petite note en marge. Je crois quand même préférable de traduire pierre angulaire et de ne pas choisir une autre traduction possible pour laquelle certains ont plaidé de pierre de fête, de pierre finale, suprême. Peut-être y a-t-il par moment dans le Nouveau Testament un jeu sur cette dualité possible de sens. Jésus-Christ est aussi la pierre dont le retour achèvera l'édifice, donc la pierre finale. Mais plus probablement, c'est quand même, dans l'usage habituel de l'image, la pierre qui fait le coin du fondement, la pierre aussi qui sert de pierre de touche, pour non pas au sens de la touche des métaux, comme dans l'expression pierre de touche littéralement en français, mais au sens que F.F. Bruce a formulé, résumé, de la pierre qui permettait de vérifier que les stipulations de l'architecte avaient été respectées par les maçons. Cette pierre avait donc un rôle de règle et de critère pour la vérification de la construction elle-même. Alors Jésus-Christ est la pierre angulaire, cette pierre décisive et normative, pourrait-on dire, mais il s'associe dans l'image les apôtres pour la fondation, ce qui est un honneur extraordinaire, qui correspond bien à la dignité d'ambassadeur plénipotentiaire. Et combien d'apôtres? Qui est apôtre dans le Nouveau Testament? De nouveau, une question assez délicate à traiter. Nous avons l'habitude de dire les 12 apôtres. Et l'expression se trouve dans l'Écriture. Donc elle n'est pas du tout illégitime. Et du coup, nous pensons qu'il n'y a eu que les 12 apôtres, plus Paul. Alors certains disent, en fait, Paul aurait dû être le 12e pour remplacer Judas. C'est par erreur que les onze ont tiré au sort et ont remplacé Judas par Matthias au début du livre des Actes. En fait, Dieu a montré par la suite que c'était Paul qui l'avait choisi pour ce rôle de douzième apôtre. Je ne pense pas que ce soit une juste interprétation. Les onze ne sont pas du tout blâmés d'avoir choisi Matthias. Et si on dit que Matthias n'a pas fait grand-chose, pratiquement de 10 autres, il n'est presque rien dit, ou de 8 ou 9 autres, en tout cas, il n'est presque rien dit dans le livre des Actes, dans le livre du Nouveau Testament, de toute façon. Et Paul n'est pas l'un des 12. Là, vraiment, je crois qu'il ne faut pas confondre. Il est l'apôtre des nations, des païens. Vous savez que c'est le même mot qui est au pluriel, donc, et le mot ethné en grec, qui correspond à goyim en hébreu, c'est le même mot qui se traduit païen, nation, ou encore gentil, dans un français un peu plus archaïque. C'est le même mot toujours dans l'original. On ne peut pas croire qu'il y en aurait plusieurs, qu'il y aurait des nuances entre eux. Non, non, non. Il s'agit des non-juifs, comme traduisent aussi certaines versions récentes, si on va dans le langage contemporain, parce que aucun des termes que je viens de mentionner n'est vraiment satisfaisant non plus. Un non-juif n'est pas très satisfaisant non plus, à la mesure où c'est une nation purement directe. Si vous dites nation, alors vous pensez à des ensembles politiquement organisés, et ce n'est pas du tout forcément le cas, ce n'est probablement pas le cas dans l'expression nation, par exemple. Des disciples des nations. Ce n'est pas comme des ensembles, la nation française, la nation allemande, etc. Et c'est un peu le malentendu qui se glisse dans le programme DOM, lié à V2000, là. Discipling a Whole Nation. DOM veut dire l'aurore, l'aurore. Mais vous avez donc l'acronyme, la formule « faire des disciples d'une nation entière »,« rendre disciples une nation entière », avec l'idée que c'est l'ensemble démographique politique qu'il s'agit de convertir. Mais je ne pense pas que dans Matthieu 28, « faites des disciples, rendre des disciples toutes les nations », supporte vraiment cette nuance du mot nation. Mais si vous dites païen, ce que je dis moi le plus souvent quand même, et vous suscitez dans l'esprit en tout cas des auditeurs qui ne sont pas initiés au propos de Canaan, une image qui n'est pas correcte. Les païens, ceux qui sont sans vouloir, le terme est un peu méprisant, et du coup, c'est pas la nuance du tout dans le Nouveau Testament. Le mot d'ailleurs, vous savez, c'est le mot paysan à l'origine. Ils sont les paysans, les pagani. Mais comme les villes ont été évangélisées d'abord, pendant longtemps, les campagnes sont restées beaucoup plus non païennes, païennes quant à la religion, que les villes. D'où le sens que le mot pagani a pris. Bon, maintenant, donc, pour rendre. L'expression apétunée, dire les païens, c'est créer des malentendus. Si vous dites les gentils, personne ne comprend plus, on croit que c'est les gentils opposés aux méchants, alors, vraiment, ça ne va pas non plus, vous voyez. Vous dites les non-juifs, c'est peut-être l'expression qui sera comprise par nos concitoyens, mais c'est purement négatif, c'est quand même un petit peu gênant. Donc, nous sommes là en présence des difficultés de la traduction. Ce n'est pas une difficulté de compréhension. On peut vraiment cerner le sens assez bien. Mais le dire d'une manière naturelle et rapide en français, on y arrive difficilement. Donc Paul est l'apôtre des ethnés. Il est le pendant comme tel, Galates chapitre 2 le montre très clairement, de Pierre. Pierre, qui a un certain rôle de président, difficilement le nier, pour le groupe des 12, comme ça qu'on le voit
prendre la parole des actes 2, Pierre, qui a ce rôle, est l'apôtre des Juifs, des circoncis. Et Paul se présente comme le symétrique, si vous voulez, appelé par Dieu à être l'apôtre des incirconcis. Et il se donne la main d'association lors de cette rencontre solennelle à Jérusalem qui est évoquée en Galates 2. Donc Paul n'est pas du tout l'un des 12. Les 12 représentent les 12 tribus d'Israël. Et il se résume en quelque sorte en Pierre, apôtre des circoncis. Paul est l'autre, l'apôtre des nations, des non-juifs. Il n'est même pas le 13e. Il y a les 12 et il y a Paul. Mais il ne semble pas justifié de réduire aux 12 plus Paul tous ceux qui portaient le titre d'apôtre dans le Nouveau Testament. Peut-être pourrait-on leur réserver la majuscule. Mais dans le texte ancien, il n'y a pas de différence, majuscule et minuscule. Ce serait notre façon de dire, ceux-là sont quand même exaltés avec un rôle d'autorité supérieur encore à tous les autres. Mais il est question des apôtres Barnabas et Saul ou Paul. Barnabas est appelé apôtre aussi. En Galates 1, quand Paul dit qu'il va à Jérusalem et qu'il va rencontrer ceux qui étaient apôtres avant lui, il semble, bon, la grammaire de la phrase peut se comprendre à la limite autrement, mais quand même c'est la lecture la plus naturelle, il semble qu'il appelle Jacques aussi apôtre, Jacques le frère du Seigneur. Or il ne fait pas partie des 12. Et il n'est pas apôtre pour les nations, précisément. Donc, le terme apôtre est employé pour d'autres. Il y a aussi un passage extrêmement intéressant qui nous permet d'anticiper un petit peu sur le point qui risque de souffrir du manque de temps cet après-midi. Dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, Paul parle de deux personnes Andronicus et alors est-ce Junias ou est-ce Junia, qui sont de grande réputation parmi les apôtres. C'est Romains 16, verset 7. Saluez Andronicon kai Junian, Andronicus, et forme de l'accusatif d'un nom qui peut être pris soit comme le nom féminin Junia, soit comme le nom masculin Junias, les deux existants. Saluez Andronicus et Junie ou Junias, mes parents, apparemment c'était des membres de la famille, des cousins de l'apôtre, et co-prisonniers, eux aussi avaient été emprisonnés pour leur foi, lesquels sont de grande réputation, très connus, renommé N Toris Apostolos, N parmi les apôtres, et qui ont été en Christ avant moi, ajoute-t-il. Bon, ça veut clairement dire qu'ils se sont convertis avant moi, et qui et c'est d'ailleurs aussi un indice très intéressant pour montrer que tous les hommes ne sont pas automatiquement en Christ à la pensée de l'apôtre Paul. Pas mal de théologiens qui ont prétendu cela, qu'en vertu de l'incarnation, tous les hommes sont en Christ, le sachant ou l'ignorant, etc. Là, la petite phrase, qu'incidemment, glisse la peau, ils ont été en Christ avant moi, montre que c'est par la conversion que l'on devient en Christ. Mais ça, c'est juste aussi une petite note marginale. Paul la parle de deux personnes qui sont de grande réputation parmi les apôtres. Ces deux personnes sont-elles des apôtres? ou sont-elles simplement bien connues des apôtres? Les apôtres les estiment hautement. C'est probablement, d'après la manière de parler, la première des deux options qu'il faut retenir. Ce sont les apôtres. Ce sont des apôtres qui jouissent une bonne renommée dans cette catégorie. Alors, si le deuxième nom est féminin, mais on ne peut pas avoir de certitude à ce propos, ça voudrait dire donc une femme portant le titre d'apôtre. Bon, c'est pas ça. C'est pour ça que ce verset est très intéressant à relever. Il fait l'objet de débats. Il a été compris comme ça, si je me rappelle bien, par Saint Jean Chrysostome. Bon, là, je dis, il faut donner moi l'effort de la vérifier, mais quand même que je peux me confier un peu en ma mémoire, parce que Saint Jean Chrysostome, dont on cite pourtant quelques horreurs à propos des femmes, mais lit ce verset en estimant que c'était une femme et qu'elle portait le titre d'apôtre. C'est quand même intéressant à relever. Lui qui a prêché et écrit au 4e siècle, beaucoup plus tard. Pardon ? Je pense qu'il relève essentiellement l'impossibilité d'être sûr. Et il est honnête de m'en accorder cela, je m'interdis pas même. Moi j'ai lu, sous la plume, certains auteurs d'aujourd'hui, comme une simple certitude, comme un fait sans discussion, en Romains 16, une femme est appelée apôtre. Non, c'est pas non plus honnête de dire des choses comme ça, car il n'est pas certain que ce soit un nom féminin. L'ennui, c'est que donc, deux noms, l'un masculin et l'autre féminin, peuvent avoir la même forme à l'accusatif, qui est la forme utilisée ici. Et il y aurait encore une autre option, plus tordue. Je vous conseille d'être tordue, mais enfin, parfois il faut aussi avoir l'idée de quelques contorsions. On pourrait imaginer que c'est un couple comme Aquila et Priscille, et qu'il soit appelé solidairement apôtre, sans que la femme porte le titre de manière distincte. Hein? C'est un peu tordu, mais je ne pense pas que ce soit absolument impossible. Il y a maréchal aussi pour la femme du maréchal, le général, le ils sont dans l'armée du salut. Vous voyez, ce n'est pas une chose qui soit non plus totalement exclue, mais je pense qu'il est intéressant pour les autres de dire que certaines autres personnes que les douze épaules portent le titre d'apôtre, probablement, et y compris, peut-être, une femme. Ce qui est intéressant à noter. Est-ce pour autant qu'on vous dirait, mais alors, il y a des apôtres, dès qu'il y a envoyé, prédicateur, messager? Il ne semble pas que ce titre d'apôtre ait pu être porté par n'importe quel envoyé, même muni d'un message, même avec une autorisation, au sens fort du terme, dans le Nouveau Testament. Il semble quand même réservé à certains saints. Timothée, type, ne paraissent pas appelés apôtres. C'est plutôt pour eux que le titre d'évangéliste sera précisément appliqué. Alors, ce qui paraît l'interprétation la plus sobre, la plus sage, c'est que la catégorie apôtre, avec une minuscule en tout cas, concerne les chrétiens de la première heure. Peut-être pas tous. Et spécialement ceux qui ont vu le Seigneur.
Il fallait avoir vu le Seigneur ressuscité, avoir rencontré ressuscité. Ça, acte 1 est très clair sur ce point. Et Paul aussi, à la mesure où Paul qui ne l'avait pas rencontré dans les 40 jours, peut se présenter comme un apôtre de plein droit quand même, parce qu'il a vu le Seigneur. Moi aussi, j'ai vu le Seigneur. La vision qu'il en a eue a été une vision hors terme. Il se présente comme un enfant né hors terme. Il j'emploie un mot qui signifie cela, dans Corinthiens 15, et par exemple le dernier, et finalement avoir,
comme un enfant, mais alors là ce serait plutôt après terme qu'avant terme,
il fallait avoir vu le Seigneur. Il est assez plausible, puisque le titre d'apôtre ne semble pas l'utiliser ensuite, et même les évêques, donc au début du deuxième siècle, même Ignace ne dit pas du tout apôtre, que le terme est lié à l'expérience du commencement de l'Église, peut-être même, très précisément, au privilège d'avoir vu le Seigneur Jésus ressuscité. Il y a quand même eu pas mal de monde, puisqu'il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, après diverses apparitions. Alors, est-ce que tous les 500 étaient appelés apôtres ?
Peut-être.
Mais peut-être pas. Y avait-il encore d'autres qualifications ? Mais en tout cas, le cercle devait être plus large que celui des 12. Cela dit, les 12 et Paul ont un rôle, même qui s'élève au-dessus, me semble-t-il, de celui des autres apôtres. On le voit donc dans la manière dont Paul parle de son ministère, le présente en rapport avec celui de Pierre dans Galates 2, et on le voit dans la vision de l'Apocalypse, où les fondements de la Jérusalem céleste portent les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc là, il me semble que c'est vraiment l'indication d'un rôle plus décisif. L'image d'Éphésiens 2, et celle d'ailleurs de l'Apocalypse aussi, associe à l'apostolat la fondation. Je crois que tous les éléments que nous venons d'évoquer s'entrelacent et se confortent mutuellement d'heureuse façon si nous pensons que l'apostolat est le ministère fondateur.
Alors, il semble bien que dans l'église de Jérusalem, les apôtres, avec Pierre, quand même plus ou moins président, les apôtres qui aient gouverné l'église pour commencer. Mais que les apôtres dispersés par la persécution, sans doute étaient-ils visés spécialement par la police secrète des autorités, que les apôtres dispersés, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui alors est pris une importance décisive, au point que son autorité semble par moments l'emporter même sur celle des 12. Bon, c'est ça comme ça, je ne voudrais pas en faire une thèse dogmatique, mais en tout cas, son avis pèse très très lourd dans la conférence 15, conférence synode, congrès, concile. Donc, en acte 15, c'est quand il prend la parole, les choses sont conclues, hein. Là, Jacques pèse un très grand poids. Et il me semble qu'on peut dire deux choses à ce propos. Trois. La première, assez générale, c'est que le Nouveau Testament n'a pas une mentalité là, juridique, rigide, à propos des ministères. Certains auraient pu réagir en disant « Mais il n'y a pas le droit, c'est les 12 !» Beaucoup plus de souplesse. Ça me paraît intéressant pour l'ensemble de notre sujet. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'indubitablement, Jacques, par sa piété personnelle, son rayonnement, et dont nous prédications sans doute, l'enseignement qu'il pouvait avoir, si c'est bien lui qui a écrit l'épître, on se rend compte qu'il avait très grand nom aussi, a pu, en quelque sorte, s'imposer tout naturellement par son autorité spirituelle. Il n'est pas dans les douze. Mais on a reconnu le fait de ce rayonnement spirituel, de la richesse du ministère qu'il exerçait, qui était, paraît-il, quasiment proverbial, puisque la tradition rapporte qu'il avait les genoux complètement calleux à cause de tout le temps qu'il passait à genouiller dans la prière. C'est une tradition que l'Église ancienne a
à maintenir. Et puis, troisième remarque, il semble certain que sa parenté, selon la chair, avec ses magazines, est quand même jouée de manière très nette. Dans l'Orient de l'époque, beaucoup moins individualiste que nous, les liens familiaux jouent un rôle beaucoup plus lourd que dans notre vie sociale moderne. Le frère du Seigneur, ça faisait un grand poids. Et d'ailleurs, pas seulement pour Jacques le frère, mais pour d'autres frères et leurs descendants, il y a un article dans le dernier numéro de Temeios qui est consacré précisément à ce sujet, dans l'Église ancienne. Nouveau Testament et ensuite, dans le dernier numéro de Temeios, il y a un article de Richard Bockham, c'est un savant évangélique au sens un peu large, mais un savant de grande érudition, qui traite de ce sujet très peu traité actuellement. Moi, je ne savais pas grand-chose. J'ai lu cet article, nous trouvons beaucoup d'intérêt. Il éclaire tout un aspect de la vie concrète de cette Église des premières générations, et donc je vous recommande. Donc pour l'apostolat, lien privilégié au thème de la fondation, qui est proche aussi de celle du dépôt. Mise en lumière, lui, surtout dans les pastorales. Ce qui est fondateur, c'est ce qui est là au départ, mais qui doit rester comme le dépôt. Le dépôt à garder, le bon dépôt, c'est le dépôt apostolique. Le ministère de fondation confié à ses ambassadeurs, à ses légats plénipotentiaires, par le Seigneur de Dieu, c'est de fixer le dépôt qu'il faudra ensuite préserver dans toute les générations. Alors je suggère en deuxième point, j'ai pris pas mal de temps sur le premier, mais vous voyez, c'est des choses tellement intéressantes, puis bon, vous avez les notes si je ne traite pas les autres points. En deuxième point, je lance une thèse que j'ai déjà introduite, mais rapidement. Il me semble, je ne pourrais pas le prouver, que l'apôtre assume la totalité du ministère, la plénitude de toutes les fonctions et de tous les dons. Évidemment, je ne peux pas le prouver parce que nous savons si peu de beaucoup des apôtres. Mais pour Paul, c'est en tout cas très visible. Paul est apôtre, mais il est aussi prophète. Il est aussi docteur. Il a fait des miracles. Miracles de guérison. Il dit qu'il parle en langue. Et il ne l'a certainement pas fait sans interpréter, puisque lui-même évoque la nécessité, lorsque ce don est exercé dans l'Église, du don d'interprétation. Donc, il me semble qu'on peut dire que, vraiment, il a tous les dons. Il les exerce tous. Et ça va avec son apostolat. On n'a pas l'impression que Paul dise, j'ai le don d'apostolat, et puis j'ai aussi le don d'un docteur, par exemple. Pas du tout. C'est vraiment ce ministère qui est d'une telle richesse, étant le ministère de représentation du Christ, l'année entière, ambassadeur du Christ, qu'il y a tous les dons. Ce qui donc peut ensuite alors influencer notre vision des ministères plus partiels, à cause de la relation qu'ils prennent avec le ministère apostolique ensuite. Mais il y a de toute façon une différence formelle, non seulement la partialité des ministères qui viennent ensuite, qui aura un ministère de docteur mais qui ne sera pas celui de faire des miracles. Par exemple, la suite étant différenciée du ministère apostolique, non seulement par le caractère partiel, mais aussi par le fait qu'il n'y a plus fondation. L'Église est fondée une fois pour toutes. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est le bon dépôt. Donc il n'y a plus fondation. Et il y a dépendance permanente à l'égard des apôtres. Face aux mormons, par exemple, on rappelle une discussion une fois, d'autres d'autres groupes éventuellement, plus ou moins éloignés. Je crois que c'est la perspective à faire valoir. Ils disent, mais il faut des apôtres pour l'Église. Donc, où sont vos apôtres? Nous, nous avons des apôtres aujourd'hui. Toute l'idée néo-apostolique, il faut des apôtres aujourd'hui, puisque les apôtres jouent un rôle tellement vital, ministère fondamental, etc. Il faut des apôtres. Et en un sens, chez les catholiques aussi. Il faut des apôtres, donc il faut que les évêques soient considérés comme les successeurs des apôtres. À mon avis, tout cela doit être réfuté par l'argument que les apôtres jouent toujours leur rôle aujourd'hui. C'est un rôle historique de fondation dont l'effet se poursuit à travers les âges. Les apôtres sont là, parmi nous, sous la forme du dépôt. Le Nouveau Testament, c'est l'apôtre parmi nous, qui continue de remplir son ministère. Et je me suis laissé aller à la facilité au milieu de dire, prenons l'image d'Éphésiens 2, ce que l'on voudrait nous suggérer, ce n'est plus l'image d'Éphésiens 2 avec la fondation posée une fois pour toutes et l'Église qui s'édifie sur cette fondation à travers tous les âges. Ce qu'on voudrait nous proposer, c'est l'image plutôt d'une route qui se prolonge où on continue à faire la fondation à chaque mètre où on la prolonge. L'argument qui voudrait qu'il y ait des apôtres aujourd'hui ou des successeurs munis de pouvoirs semblables aujourd'hui correspondrait à l'image d'une construction qui se continuerait à l'horizontale comme celle d'une route et non pas l'image d'Éphésiens 2 où c'est le bâtiment sur la fondation posée une fois pour toutes. Alors, oui, monsieur Lermelot.
Il y a quand même des ministères un peu spéciaux, de créateurs, de fondateurs d'églises supplémentaires, qui sont plus qu'un ministère pastoral classique. Il y a quel nom on leur donne à ces gens-là? C'est quand même des gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Comment on peut faire tuer ça dans l'expérience?
Ah oui, ça existe tout à fait. Moi, j'ai été tenté de dire, oui, on pourrait les appeler apôtres un certain temps, et puis ce sont mes lectures plus récentes qui m'ont fait dire, non, l'Église ancienne a résisté à cette tentation, il y a eu des fondations d'Église, et pourtant, on n'a pas appelé apôtres. Après, la génération historiquement fondatrice, associée au Seigneur dans ses apparitions de ressuscité, après... En fait, cette génération n'a plus utilisé le titre d'apôtre. Et le Nouveau Testament ne le fait pas non plus, pour ceux qui sont venus après. Donc, finalement, je me dis, il vaut mieux ne pas utiliser le titre. Mais c'est vrai que c'est un ministère qui a une certaine analogie. Ce que les apôtres sont pour l'Église universelle dans l'histoire considérée globalement, on peut dire que ces ministres de la parole le sont dans un petit segment de notre histoire moderne, localement. Et alors, le terme employé pour les désigner, est-ce qu'on dira missionnaire? Mais c'est pas tout à fait ça, c'est vrai. Peut-être évangéliste fondateur, évangéliste pionnier, mais nous manquons d'un terme qui ait beaucoup de lustre, de relief. J'en conviens, j'ai dit. Oui.
Je voudrais savoir la différence entre homme disciple et homme apôtre.
Oui.
Parce que je raconte ça dans mon
côté. Oui. Alors je pense qu'on peut dire que les apôtres sont des disciples. Mais tous les disciples ne sont pas des apôtres. Le disciple, c'est l'élève. C'est celui qui se laisse instruire et suit le maître. Mais parmi ces disciples, Jésus en a choisi certains pour leur donner mandat, un message à porter et l'autorité de le faire. En un sens, tous les disciples sont appelés à être témoins du Seigneur dont ils ont reçu l'enseignement, mais sans avoir l'autorité que Jésus confère à certains qu'il choisit pour le représenter. C'est là la différence qu'on fait. Mais c'est vrai que le mot disciple est employé d'une manière qui nous semble parfois quasi synonyme d'apôtre. On les récits de l'évangile. Alors, l'évangéliste, lui, Qu'est-ce que ça représente exactement? Difficile de le dire. C'est un titre porté par
l'un des sept choisis par l'acte 6. Pas en acte 6, il n'y a pas toujours en acte 6.
Mais un peu plus tard, dans le livre des actes, c'est ce que Paul utilise dans la seconde à Timothée pour Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc Timothée semble avoir été
comme l'adjoint de l'apôtre, son messager.
Paul, envoyant lui-même un messager plénipotentiaire à son tour, avec un rôle de mise en ordre, de remise en ordre des affaires dans l'église d'Éphèse et les églises des environs. Au bout du compte, il me semble que le mot
doit signifier quelque chose comme acolyte de l'apôtre. Participant au ministère de l'apôtre, certains aspects du ministère de l'apôtre sont repris, et ça n'exclut pas d'évangéliser pour des régions où le nom du Seigneur n'a pas été encore proclamé, et de fonder de nouvelles communautés. Je pense que ça peut tout à fait l'inclure. Mais le terme assez vague pourrait presque être paraphrasé comme un sous-apôtre. Bon, c'est plus gentil de dire acolyte. Acolyte, c'est-à-dire qui suit, hein, ça vient du verbe suivre, acolyte de l'apôtre. Mais reconnaissons que les occurrences néo-testamentaires ne sont pas fréquentes, nombreuses,
et donc c'est difficile de trancher. Alors, dans les quelques minutes qui restent, j'en viens aux deux autres paires de titres structurels officiels. Prophètes et docteurs, ils sont en bonne place dans les épîtres de Paul. En acte 13, il nous est dit que l'église d'Antioche, servait le Seigneur, qui jouait un rôle important dans le culte de l'église. Ils correspondent à ceux qu'on appelait dans l'ancienne dogmatique protestante les ministres qui enseignent, ministri docentes, les ministres de la parole de Dieu. Et là, le rapport à la fonction de dire, que nous avons souligné pour l'Église, considérée globalement, est évident. Je me contente de deux ou trois remarques qui correspondent à ce que j'ai écrit aussi. D'abord, je souligne l'importance de ces ministres de la parole. Dans l'Épître aux Éphésiens, comme je l'ai signalé, l'image du berger, pasteur, est associée au titre de docteur. Ce serait sans doute exagéré de dire que pasteur est déjà un titre. Pasteurs et docteurs. On est peut-être sur le chemin de l'usage de ce terme comme un titre. Mais c'est encore image. Mais ce qui, maintenant, est intéressant pour moi, c'est qu'il est associé donc à la fonction d'enseignement, docteur. Ce sont les docteurs qui sont appelés les bergers du troupeau dans ce passage. Or, l'image du berger, dans l'Ancien Testament, est assez fréquente. Lorsqu'il s'agit des ministères, et non pas du Seigneur lui-même, l'Éternel et mon berger, n'est pas employé pour les docteurs. Pas de façon très nette. C'est pour les rois et les princes que l'image du berger est régulièrement employée. On va dire bien sûr aussi du souvenir de David comme berger, mais c'est vraiment très fréquent dans les livres historiques.
Très souvent que Jérémie, j'ai passé en revue, j'ai pris ma concordance en préparant
vraiment tous les usages du mot berger. Alors il y a certains usages qui restent assez vagues. Ce sont les conducteurs du peuple. Il ne faut pas dire très précisément que ce sont les conducteurs politiques, les rois et les princes. Mais il n'y a pratiquement aucun usage
net qui soit pour une autre catégorie. Ce sont les rois et les princes qui sont,
de manière privilégiée, appelés les bergers du peuple. Oui, par exemple. C'était 34, un passage qu'on peut tout à fait citer. Donc, c'est quand même très intéressant que cette image qui a ses connotations bien, bien fermes dans l'usage de l'Ancien Testament, dans le Nouveau, passe au docteur. Alors ce n'est pas pour que
les docteurs vous tueront.
Ne soupçonnez pas de telles intentions. Je pense que c'est une illustration de ce fait majeur dans l'Église. Israël renouvelé, Israël de Dieu, c'est la parole qui parle. Et ce sont les porteurs de la parole qui donc correspondent aux rois et princes de l'Ancien Testament. C'est la parole qui doit gouverner. Dans ce peuple nouveau,
transposition de l'Ancien Testament,
il n'y a plus le même appareil politique. Et c'est la parole qui doit être enseignée, qui joue notre rôle de Christ. Voilà en tout cas le commentaire que je vous propose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne la distinction entre
le rôle prophétique et le rôle doctoral.
Didactique. Docteur, ça veut simplement dire enseignant. Il y a deux ministères. C'est clair qu'il y a des gens qui portent le titre de prophète, d'autres qui portent le titre de docteur. Ils sont bien distingués dans Éphésiens 4. On ne peut pas purement et simplement confondre. En même temps, j'estime en raison, quand même étudier pas mal cette question, qu'on ne peut pas non plus faire une séparation absolue. On ne peut pas dire le rôle prophétique et le rôle doctoral n'ont rien à voir l'un avec l'autre, séparant totalement. En fait, il y a des passages qui nous montrent une sorte d'interférence. Les prophètes enseignent aussi. C'est dit expressément qu'une fausse prophétesse dans les lettres de l'Apocalypse.
Alors, bien sûr, c'est une fausse, mais il faut une idée vraie.
Elle enseigne à mes serviteurs, les prophétesses. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, par exemple, on voit que ce qui correspond aux faux prophètes dans l'Ancien Testament, ce sont des faux docteurs dans l'Église. Donc, on ne peut pas dire le prophète, c'est simplement celui qui reçoit une révélation, monsieur un tel a commis adultère, vous allez dire, etc. Vous voyez, je ne dis pas que ce soit pas une forme possible, mais ce n'est en tout cas pas seulement ça. Le rôle de prophète dans la Bible entière, et le Nouveau Testament et dans les Épîtres, est un rôle très large qui s'accomplit sous des formes multiples. L'apôtre Paul souligne l'intervention de l'intelligence du prophète qui est active dans l'accomplissement de son ministère. Et il y a une part qui correspond à de l'enseignement. Donc, on ne peut pas séparer complètement le ministère prophétique et le ministère doctoral. Mais c'est pas pour autant qu'il faut cesser de les distinguer.
Les bipolarités, on a toujours une bipolarité,
correspondent à des distinctions bien nettes et pourtant avec des zones intermédiaires. La plus belle illustration de ça, j'ai vu ça avec toi,
je m'en rappelle, c'est le jour et la nuit.
Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais en même temps, au crépuscule, il y a surtout sous mon attitude, quand même 1, 2, 3 heures, où ce n'est ni le jour ni la nuit, où c'est le jour et la nuit à la fois, disons, pas l'un à l'autre. Et je pense que pour les deux ministères de prophète et de docteur, c'est la même chose. Il y a une zone intermédiaire de laquelle les deux ministères participent. Mais quelle est alors la bipolarité? Qu'est-ce qui les distingue quand même, puisqu'il y a deux ministères? Je suggère que la distinction est la suivante. Le prophète est celui qui communique la parole de Dieu en l'appliquant ici et maintenant. C'est la parole de Dieu en situation, appliquée aux auditeurs tels qu'ils sont. Alors que le docteur, c'est celui qui expose la parole de Dieu d'une manière relativement intemporelle. Il expose la parole de Dieu dans son contenu permanent, selon son ordre interne, selon sa logique propre, et ce n'est pas le souci de l'application qui est le premier. Ce n'est pas une application particulière. pour la parole de Dieu, toujours et partout, qui est ce que le docteur doit communiquer. Et puis un troisième point, les docteurs, ou son transcrit, c'est un peu grec, on aura didascal, les docteurs me semblent dans le Nouveau Testament avoir été assez souvent itinérants. Il y a des docteurs locaux, mais semble-t-il, des docteurs comme Apollos, comme Zénas, pour ne pas prendre des apôtres, qui circulaient, qui avaient une compétence donnée, qui pouvaient rester quand même pas mal de mois ou même d'années dans une ville donnée, dans une église. Quelqu'un comme Apollos a séjourné assez longtemps à Corinthe, par exemple. Donc, nous avons, me semble-t-il, ces deux sortes de docteurs, ce qui introduit au troisième paragraphe, mais nous pourrons peut-être quand même, si vous avez des questions, reparler un peu cet après-midi. Les anciens, appelés aussi, on dit, les anciens doivent être capables d'enseigner. C'est fait partie des exigences de leur ministère, d'après 1 Timothée 3. Doit-on simplement présenter comme un autre nom des docteurs? Doit-on dire les anciens sont les docteurs sont les anciens dans une église? Il ne me semble pas. Il me semble que les deux offices continuent d'être distincts, même si, de fait, il y aura souvent un docteur local qui sera aussi ancien. Malgré tout, il y a une distinction là de ministère qu'on peut faire. Et parmi les anciens, 1 Timothée 5, 17, que nous relirons cet après-midi. Je compte lire la fin du chapitre 5, 1 Timothée, en introduction cet après-midi. Il y a une distinction possible entre anciens. Entre les anciens, qui certes doivent être aptes à l'enseignement, mais qui n'enseignent pas de manière ordinaire, dont le travail principal est de gouverner, et puis les anciens qui ont un rôle marqué dans l'enseignement et y consacrent beaucoup de temps et de force, et qui, pour cela même, doivent être rémunérés. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette distinction éventuelle, parce que la grammaire ne l'exige pas absolument, mais je pense que là, nous avons atteint notre heure, donc nous allons nous arrêter.